Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité jusqu'à 13h, il est l'un des leaders des Républicains. Espère-t-il secrètement que l'acte 2 du quinquennat soit aussi un acte 2 pour l'opposition et sa famille politique? Il sait qu'avant de pouvoir rêver d'alternance, il faudra d'abord incarner l'alternative à Emmanuel Macron. Mais avec quelles idées et quelles stratégies? Et puisque le temps politique est suspendu entre la restitution du grand débat et la prise de parole attendue du président de la République, c'est l'occasion, peut-être, d'engager une réflexion de fond sur la rénovation de la droite française. Le premier vice-président des Républicains et député de Loir-et-Cher, Guillaume Pelletier, s'est installé dans le studio de Questions Politiques. Intervenez sur l'appli France Inter ou sur les réseaux avec le hashtag QuestionPol.
France Inter, Questions Politiques, Ali Badou.
Bonjour Guillaume Pelletier.
Bonjour.
Et bienvenue. La maison de la radio et le studio de questions politiques sont pile au kilomètre 31 du marathon de Paris. Et vous voyez qu'elles ne sont même pas essoufflées. Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Pourtant, on a eu du mal à arriver.
C'est vrai. Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali. Bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Bonjour tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait et nous le découvrirons, Guillaume Pelletier, dans quelques minutes. Le président de la République devrait s'exprimer demain ou mardi. Est-ce que les éléments de langage sont déjà prêts chez les Républicains?
Non, pas à ma connaissance.
Qu'est-ce que vous attendez?
Moi, je suis un pragmatique. Et comme je l'ai toujours dit, je mets mon pays au-dessus de mon parti. Et par conséquent, j'attends et j'espère qu'Emmanuel Macron va prendre conscience et appréhender avec beaucoup de précision les enjeux. D'ailleurs, avec Laurent Wauquiez, ce que nous avions décidé, c'est de participer à ce grand débat.
On va y venir, justement. On va essayer de comprendre ce que vous attendez, peut-être rien, peut-être beaucoup, de ce que doit annoncer le président de la République. Avant de vous demander ce que vous attendez, d'abord sur le grand débat lui-même, puisque vous l'évoquiez, dont on sait maintenant que c'est une idée d'Emmanuel Macron lui-même. Avec le recul, vous vous dites c'est bien joué?
Oui.
Oui.
Les tensions dont il était le responsable étaient telles qu'elle commandait de la part du chef de l'État une réaction à la hauteur et l'apaisement et la concorde civile que mérite le peuple français. Et dans cette perspective, la décision d'organiser un grand débat, qui sur le plan quantitatif est incontestablement un succès, avec des centaines de milliers, voire quelques millions de nos compatriotes qui ont participé, même si nous devons rester lucides sur probablement un manque de représentativité de toute la société française. J'ai moi-même participé en tant que député à ces grands débats, j'en ai organisé dans ma circonscription, et c'est une partie de la France qui a participé. Les élus locaux se sont mobilisés, nos anciens ou les retraités y ont participé, la jeunesse de France, la France des quartiers populaires, ils sont particulièrement absents. Donc il faudra quand même être lucide sur ce grand débat.
3,5% de la population en âge de voter. Donc voilà, ça représente pas, c'est pas énorme
non plus. Non, c'est pour ça que je dis qu'il faut rester modeste, mais quand même pas loin de 2 millions de nos compatriotes qui pendant 3 mois viennent discuter, viennent débattre, émettent des propositions.
S'intéressent à la politique.
S'intéressent à la politique. Ça, je trouve que c'est à ce titre plutôt réussi. Mais un grand débat n'est complètement réussi que si l'on sait en sortir. Et c'est tout l'enjeu qui vient dans les heures et les jours qui viennent.
On va en parler, Françoise, Françoise.
Le mouvement des Gilets jaunes, malgré tout, continue. Et je voudrais connaître votre positionnement par rapport à ce mouvement, parce qu'au fond, vous êtes au sein du Parti des Républicains, l'incarnation d'une droite très populaire, d'une droite qui veut être vraiment en prise avec le peuple. Le fait que des manifestants, tous les samedis, continuent de dire « on ne se reconnaît pas dans le système », qu'est-ce que vous en pensez?
Guillaume Pelletier.
Le 17 novembre dernier, j'ai participé sur les ronds-points à l'émergence de cette colère légitime du peuple français, principalement, disons-le, sur la question du pouvoir d'achat et de l'attente de justice sociale et fiscale. Et pendant quelques semaines, j'ai été fier, avec d'autres, d'accompagner ce mouvement. Mais ce mouvement, disons-le aussi avec la même franchise et la même clarté, a été détourné et dévoyé ces derniers mois par des minorités extrémistes, de tous bords d'ailleurs, qui ont utilisé cette colère pour incarner l'anarchie face à l'État. Et moi, ma ligne de conduite, elle est claire. Je suis du côté de la justice sociale et fiscale, et par conséquent, le 17 novembre, j'étais avec les Gilets jaunes, mais je suis aussi du côté de l'ordre, parce que l'ordre garantit la prospérité pour les plus vulnérables.
Nathalie Saint-Cricq.
Est-ce que clairement, est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir une réponse pour, vous avez parlé du malaise social, ou est-ce qu'il doit y avoir en plus une mesure symbolique pour faire payer les riches, même si elle n'est pas strictement nécessaire économiquement parlant? Est-ce qu'il doit y avoir du symbole qui est donné aux Gilets jaunes et aux Français?
C'est très probable. Alors, ce qui sera compliqué à trouver pour le président de la République, c'est qu'il y a d'un côté, et c'est logique, et je partage, une exaspération absolue de l'impôt. Voilà, la fiscalité.
Que vous partagez, vous pensez que c'est un problème de niveau plus que de répartition?
Je pense que les Français considèrent, ils ont raison, que tout acte dans la vie est taxé plusieurs fois. J'achète, je suis taxé, je travaille, je suis taxé, je bascule à la retraite.
Donc d'accord avec Édouard Philippe. Édouard Philippe sur l'exaspération fiscale, comme disait Françoise.
Oui, il y a une immense exaspération fiscale. Mais cette immense exaspération fiscale ne doit pas nous conduire à négliger ou à mépriser les symboles. Et c'est vrai, je sais que je suis parfois minoritaire dans ma famille politique, mais c'est aussi la force de mes convictions sur ce sujet-là, quoique la nouvelle génération y est très sensible. Prenons l'exemple, puisque je pense que c'est votre question, de l'ISF. L'ISF, chacun sait que c'est un impôt probablement idiot, qui ne rapporte...
Qui coûte cher à collecter, sans reporter forcément.
Plus cher à collecter qu'il ne rapporte aux caisses de l'État.
Que la droite a rêvé de supprimer depuis 1986 sans jamais oser le faire.
Exactement. Et il y en a un d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, qui, lorsqu'il fut élu président de la République en 2007, avait refusé de toucher à ce symbole parce que, comme vous le dites,
politiquement, c'était dangereux.
Symbole. Moi, je pense que sur la question de l'ISF, j'aurais fait l'inverse d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que j'aurais maintenu l'ISF pour les détenteurs de capitaux et ceux qui considèrent que l'argent roi et l'horizon indépassable de leurs activités économiques, et j'en aurais exonéré immédiatement et les propriétaires immobiliers, fruits d'une vie de travail, et tous ceux qui investissent dans les PME et l'économie française, créant par là de l'emploi. Donc exactement l'inverse.
Et aujourd'hui, vous feriez quoi?
Bah c'est ça. Moi, si j'étais Emmanuel Macron, j'analyserais avec beaucoup d'humilité mes réussites, il y en a quelques-unes, et mes échecs assez considérables. Je dirais, voilà, j'ai cru comprendre que les Français attendaient beaucoup plus de justice fiscale. Et donc, sur la question de l'ISF, je souhaite que cet impôt soit maintenu. C'est Emmanuel Macron qui parlerait, hein, puisque c'est votre question. Soit maintenu.
On ferme les yeux, on essaie de vous
détendre les capitaux. Mais on exonérerait les propriétaires immobiliers et tous ceux qui investissent dans l'économie française.
Mais donc,
ce serait
vous avez,
un principe de justice.
Au moment de la restitution du grand débat, vous avez applaudi Édouard Philippe quand il disait qu'il fallait aller plus vite, plus fort pour la baisse des impôts.
Alors, oui, sur cette formule, j'avoue, pour l'avoir écouté dans l'hémicycle, je l'ai trouvé non seulement sur le fond peu audacieux, il n'y a pas grand-chose de nouveau, et sur la forme extrêmement prisonnier d'ailleurs du tempo du président de la République. Le pauvre fut envoyé sans doute en amont devant la représentation nationale pour occuper le terrain, pouvoir rien annoncer, à part des chantiers
la baisse
à venir.
Des impôts.
Mais il a dit une chose assez surprenante, il a dit finalement... À chacun son bilan. Chacun en tirera de ce qui s'est passé dans ce grand débat. Chacun en tirera ce qu'il veut. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de faire capoter finalement la sortie, les conclusions qu'on attend aujourd'hui du président? De dire chacun peut en penser ce qu'il en veut. À chacun son bilan.
Ce qui me dérange à l'heure où
nous parlons.
Et quel
est l'autre du coup?
Et c'est ce que j'ai ressenti tout au long de la semaine dans les interventions tout autant des ministres que du Premier ministre. C'est qu'il manque à la France une vision, un cap. On attend ça d'ailleurs. Et moi j'appelle Emmanuel Macron parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Moi je n'attends pas rien, j'attends beaucoup, comme les Français, de ce que va annoncer le président de la République. J'espère qu'il va tirer la quintessence de ce grand débat, qu'il va tracer une perspective, qu'il va annoncer par exemple que la valeur travail devient dans la société française la valeur cardinale et que toutes celles et ceux qui ont travaillé, les retraités, toutes celles et ceux qui travaillent, les travailleurs, j'assume ce mot, et toutes celles et ceux qui veulent travailler, ceux qui sont actuellement au chômage ou à la recherche d'un emploi, doivent la valeur travail, le travail qui paye, le travail qui est récompensé, ça doit devenir la valeur cardinale de la société française.
Et c'est le paradoxe justement d'un président de la République qui doit s'adresser non seulement aux Gilets jaunes, mais à l'ensemble des Français, et même à la droite, pour vous satisfaire et vous convaincre, Guillaume Pelletier, vous et votre famille politique, justement votre portrait, signé Karine Bécard.
Guillaume Pelletier, pendant presque 20 ans, vous avez joué aux jeunes politiques pressés. Et puis, vous avez radicalement changé. Vous avez cessé de courir tous les plateaux télé et vous avez songé à vous enraciner. Voilà comment l'ambitieux Guillaume Pelletier décide de miser sur une assez petite municipalité, Nain-sur-Beuvron, 1200 habitants, qui vous élit maire, c'était il y a 5 ans. Ensuite, tout aussi modestement, vous devenez conseiller régional du Centre Val-de-Loire. Et quand vous entrez, il y a 22 mois, pour la première fois à l'Assemblée nationale, vous le faites là encore avec beaucoup d'humilité. Rien à voir avec le Guillaume Pelletier qui avait déjà tenté à 3 reprises d'être député et qui pendant 15 ans n'a cherché à être élu que sur les places, que sur les postes les plus en vue. Comme en 2004 par exemple, aux élections européennes. À l'époque, vous aviez 27 ans. Vous étiez déjà secrétaire général du MPF, le Mouvement pour la France, et forcément tête de liste sur l'une des 8 grandes circonscriptions, celle du Centre Massif Central.
Nous, ce que nous proposons en 2004 avec Philippe de Villiers, c'est de rétablir les frontières commerciales avec une zone de protection, avec des tarifs douaniers modulables pour protéger nos emplois et les employés français.
À cette élection, votre liste ne recueillera que 6,6% des voix, ce qui ne vous fera aucun élu parmi vos candidats. Là, Guillaume Pelletier, ce sont donc vos années souverainistes auprès de Philippe de Villiers. Mais vous avez d'abord à 20 ans été frontiste, parce que villiériste, vous ne le devenez qu'à 24 ans. Et puis il y a eu la grande période sarkozyste qui débute un peu plus tard, vers 32 ans. En somme, vous n'avez jamais cessé, Guillaume Pelletier, de vous gauchiser. D'ailleurs, vous vous considérez aujourd'hui très sérieusement comme occupant l'aile gauche du parti de Laurent Wauquiez. Et sans doute, pour tenter de renforcer votre crédibilité, vous n'hésitez pas, quant aux mesures que vous pouvez afficher, à en rajouter.
Pourquoi, par exemple, ne pas imaginer enfin en France la hausse du SMIC ? Je pense qu'il nous faudrait un électrochoc de 10, 15 ou 20% avec en échange, parce qu'il ne faut pas que ça pèse sur les entreprises, une baisse des charges drastique.
C'était il y a moins d'un an, le 19 juin 2018 précisément, et cette augmentation du SMIC à droite au sein des Républicains n'a pas vraiment fait l'unanimité, vous en conviendrez. Maintenant, persistez, comme vous le faites, Guillaume Pelletier, à miser politiquement sur les classes populaires dans un parti qui s'est choisi pour ses européennes, François-Xavier Bellamy. C'est ce qui s'appelle un sacré coup de poker.
Réaction, Guillaume Pelletier ?
Il y a pas mal de choses à dire. Quand on voit, oui, quand on voit le... Oui, c'est le temps, il y a une bonne synthèse, hein, je ne vais pas revenir sur tout. C'est vrai que cet engagement politique, moi depuis la fin de mon adolescence, c'est à la fois l'envie de rendre à la France ce qu'elle m'a donné et une forme de revanche sociale, c'est-à-dire de porter la parole de ceux qui ne l'ont jamais. Je me suis trompé parfois, j'ai commis des erreurs souvent. Mais avec le temps qui passe, l'enracinement...
Vous vous êtes trompé en vous engageant à l'extrême droite ?
Oui, je l'ai déjà dit, oui.
Et dans votre parcours, vous avez évolué vers la gauche ? Vous finirez peut-être à gauche ?
Non, je suis de droite et fier de l'être, et d'ailleurs tout mon parcours le démontre. Comme disait très joliment d'ailleurs Simone Veil, les erreurs, on ne les regrette pas, on les assume. J'assume mes erreurs, mais ce sont des erreurs. Mais elles m'ont beaucoup donné, elles m'ont permis de me construire. Quand on retrouve d'ailleurs les discours, on l'entendait il y a une dizaine d'années sur la question européenne, au fond, ma colonne vertébrale reste la même. C'est la volonté, par rapport à la France des privilégiés de tout en haut et la France des assistés de tout en bas, d'être le porte-parole inlassable et probablement inclassable de la France du milieu. La France des classes moyennes, la France des petits fonctionnaires, la France des artisans, des commerçants, des ouvriers, des petits entrepreneurs, des oubliés.
Mais vous parlez dans le vide, je vous interromps Guillaume Pelletier. Quand on regarde les enquêtes menées par le Cevipof, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Ipsos, on voit que les Républicains sont aujourd'hui à 7% chez les ouvriers. 7% seulement des ouvriers voteraient les Républicains, 8% seulement des employés. Vous avez perdu les classes populaires, donc vous parlez dans le vide.
Non, je suis d'accord avec vous. Ce sont des chiffres que je connais par cœur et qui m'animent même quotidiennement, que nous avons vécu en 2017. La dernière fois que nous avons pu convaincre une majorité des Français des classes moyennes, des Français des quartiers populaires, des patrons de PME, des artisans, des travailleurs, c'était en 2007. Moi, ma filiation idéologique et historique, c'est le général de Gaulle. C'est Jacques Chirac, c'est Philippe Séguin, c'est Nicolas Sarkozy en 2007, beaucoup plus que quelques autres dans ma famille politique. Et c'est vrai que depuis 10 ans, vous avez raison, nous n'avons pas encore réussi, probablement par manque de travail collectif, je me mets dedans, hein, à repenser idéologiquement la droite française. Dans un sondage, il y a 3 semaines, qui m'a beaucoup marqué, les Français disaient que la droite représentait le syndicat de défense des privilégiés. Eh bien, le grand enjeu qui vient, selon moi, selon beaucoup de parlementaires aujourd'hui, beaucoup de cadres de notre famille politique, c'est de redevenir le grand mouvement de la France qui bosse, de la France qui travaille. Et c'est pour ça que, inlassablement, sur la hausse générale des salaires, et du SMIC en tête particulier, mais de tous les salaires dont je parlais sur France Inter il y a maintenant près d'un an, j'assume et je revendique, oui, la droite française, en échange de la baisse des dépenses publiques, en échange de la baisse des charges qui pèsent sur les salaires, devra incarner la meilleure récompense de la France qui bosse.
Vous avez perdu les hauts salaires également, puisque vous faites 9% chez les cadres supérieurs, oui. Ce qui est aussi extrêmement faible et assez paradoxal. Ça change des idées reçues sur la droite d'aujourd'hui. Françoise Fressoz, puis Karine Bécard.
Comment vous sentez à l'intérieur de votre famille politique ce besoin ou non de renouveau? Au fond, Laurent Wauquiez incarne toujours la ligne libérale que vous contestez, c'est la ligne de Fillon, la ligne de Juppé. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça peut changer aujourd'hui à droite?
Plein de choses. D'abord, Laurent Wauquiez a eu le courage de prendre la tête d'un parti profondément abîmé et divisé. N'oublions pas d'où nous venons, 2017 fut l'année noire, puisque pour la première fois de notre histoire, notre candidat à l'élection présidentielle ne fut pas qualifié pour le second tour. Nous en avons tiré d'ailleurs avec un certain nombre une analyse. Certains disent que François Fillon a échoué parce qu'un grand nombre d'affaires s'abattirent sur lui. Je ne le pense pas. Je pense en tout cas que ça n'est pas la seule et principale raison de notre échec. Moi, je considère, avec entre toutes la nouvelle génération, que cet échec à l'élection présidentielle, qui est le nôtre, était principalement dû à un programme que j'appelle hémiplégique, c'est-à-dire qui s'enfermait uniquement dans la France du sang, de la sueur et des larmes, et qu'il nous faut, au lendemain de l'effort collectif que nous devrons demander au peuple français, le réconfort, la récompense de l'effort. Moi, je plaide pour la loi de l'effort plutôt que la loi du plus fort.
Oui, mais vous et c'est ça qui doit changer à droite. Est-ce que vous pensez que Laurent Wauquiez est en capacité d'incarner la ligne que vous préconisez?
Si je regarde l'histoire de Laurent Wauquiez, son émergence dans la vie politique, son affection particulière à travers ses premiers ouvrages ou ses premières prises de position sur la question des classes moyennes, oui, je pense qu'il sera capable demain d'incarner cette synthèse nécessaire. Je n'ai rien.
Mais ça, c'était l'époque Barrault, hein.
Je n'ai rien contre le courant libéral. Il existe à droite depuis toujours et il y a toute sa place. Mais pour moi, le
vous parlez au futur,
la...
pour répondre à Françoise, concernant Laurent Wauquiez, vous lui répondez au futur. Pourquoi Laurent Wauquiez n'a-t-il pas réussi jusqu'à présent à incarner ce renouveau?
Pour une raison toute simple, et c'est pour ça que je suis très heureux, moi, d'être le premier vice-président à ses côtés. Il avait d'abord un parti convalescent qu'il a dû rassembler. Il y a réussi en grande partie. Deuxièmement, il fallait relancer la machine à l'occasion des élections européenne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le trio qu'il a choisi est un trio qui incarne l'addition des sensibilités, une certaine fraîcheur, à l'instar de François-Xavier Bellamy, et que ça redonne une dynamique à notre famille politique. Mais au lendemain du 26 mai, nous aurons une responsabilité collective. Qu'est-ce que la droite a à proposer au peuple français dans la perspective de 2020?
Alors vous venez de dire que pour les européennes, il y avait un trio de tête, les autres aussi, qui étaient rafraîchissants. Je ne sais pas si c'est votre terme exact. Est-ce que pour reprendre la chute du portrait de Karine Bécard, vous trouvez que François-Xavier Bellamy, philosophe, est également totalement en mesure d'incarner cette fibre populaire qu'on ressent d'ailleurs chez un Xavier Bertrand, peut-être, qui n'est pas franchement avec vous? Donc, François-Xavier Bellamy, est-ce que c'est exactement votre style pour contrecarrer Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez vraiment que sans Xavier Bertrand, vous pouvez incarner cette fibre populaire?
Deux questions intéressantes. Alors,
dans l'ordre.
François-Xavier Bellamy, je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, nous ne sommes pas pareils. Mais c'est ce qui fait aussi la force d'une famille politique. Et le moins que l'on puisse dire, accrochons-nous au réel, c'est que, avec son humilité, avec sa fraîcheur, avec sa détermination et avec un trio, nous sommes en train de recréer une droite appétissante qui donne un peu plus envie aujourd'hui qu'il y a quelques mois.
Alors, est-ce qu'elle parle aux gens modestes dont vous parlez, votre fonds de commerce populaire que vous essayez de récupérer?
Cette droite, cette incarnation, c'est le bon choix pour les élections européennes, dont vous savez qu'il s'agit d'un scrutin au cours duquel et je le regrette, les classes moyennes, les catégories populaires votent assez peu. Assez peu.
Pour vous parler que ça donne, enfin qu'il donne envie, mais dans les intentions de vote jusqu'à présent, c'est pas du tout le cas. C'est 13% à peu près.
Il vaut mieux être à 13 qu'à 8.
Pour la liste des Républicains, mais il n'y a pas eu d'effet Bellamy sur les.
À partir
les
intentions de
combien de pour les
À partir de combien vous dites votre. Non, attendez, tout le monde l'a fait le combien. Pour le coup, même Olivier Faure la semaine dernière à 17. Marine Le Pen a dit ça sera un échec si on n'est pas en tête. Tout le monde joue le jeu de se donner une sorte d'étiage. À partir de combien vous considérez
Nathalie Saint-Cricq, Karine Bécart l'a dit avec beaucoup de bienveillance. Je suis différent des autres.
Nous sommes bienveillantes toutes les trois.
Je suis différent des autres. Je n'aime pas. D'abord, vous avez compris, n'étant pas spécialement libéral, la comptabilité n'est pas ma passion première.
Non, mais vous êtes pas
je ne fais pas
poète,
de la politique pour être Madame Irma et dire en dessous de ça c'est mal, au-dessus de ça c'est bien. Ce qui est certain, c'est que, vous voyez, je ne peux pas être plus honnête.
Guillaume Pelletier, vous êtes un professionnel des sondages.
Ah, je suis passionné.
Vous n'êtes pas des sondages. Par les sondages.
Soyons
président
de la carte électorale et des études pour bien comprendre. Oui, et je l'ai dit.
Et donc vous savez parfaitement mesurer les rapports de force.
Nous sommes.
Est-ce que vous pouvez retrouver votre socle électoral de l'élection présidentielle, c'est-à-dire 20%? La question, elle est là.
Je finis juste là-dessus. À l'heure où nous parlons, 22-23 pour En Marche, 20-21 pour le Rassemblement National, 13-14 pour nous, 8-9 pour la France Insoumise, 5-6 pour le Parti Socialiste. Tout ça n'est guère exceptionnel pour chacune des formations politiques que j'ai citées. Ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes en train de nous enraciner à nouveau comme la troisième force politique en France, nous qu'on avait enterré au lendemain de 2017, et nous sommes déterminés, Bruno Retailleau l'a dit, Laurent Wauquiez l'a dit, à faire encore plus que ce que nous attribuent aujourd'hui les sondages. Ce qui compte, c'est la dynamique. Vous le savez vous-même, nous étions à 8-9 en décembre-janvier, nous sommes à une moyenne de 12-13-14, vous l'avez évoqué en ce moment, il nous faut continuer et bien expliquer, parce que là est l'enjeu, Nathalie Saint-Cricq, à sortir du piège dans lequel Emmanuel Macron souhaite nous enfermer, qui est son rêve depuis 2017, qui est son rêve pour 2022, de faire croire aux Français qu'il n'existe qu'un seul choix, lui ou le chaos, lui ou les extrêmes, lui ou Madame Le Pen. Ça n'est pas le choix que nous souhaitons offrir au peuple français. Et François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean incarnent cette troisième voie, cette voie alternative. C'est-à-dire que je résume d'une manière, il faut que ceux qui nous regardent et nous écoutent se disent la chose suivante. Est-ce que vous voulez l'Europe sans les peuples d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous voulez la France sans l'Europe de Madame Le Pen? Si c'est le cas, votez pour Monsieur Macron, votez pour Madame Le Pen. Et si vous voulez réinventer l'Europe, si vous êtes profondément européen, mais vous considérez que cette Europe ne marche pas, qu'elle doit être totalement refondée sur un idéal de protection, sur un idéal populaire, alors votez pour la liste des Républicains.
Vous avez compris, Nathalie, ce que voulait dire Guillaume Pelletier. En gros, 13%, ça vous satisfait? J'essaie juste de mettre les sous-titres.
C'est la troisième. Il a parlé de la dynamique.
Non, ça, c'était troisième.
Oui. Françoise Fraisseuse.
Enracinons-nous. Soyons modestes.
On comprend bien votre stratégie. En même temps, on voit aussi Emmanuel Macron qui assouplit son discours sur l'Europe, qui parle lui aussi énormément de protection. On le voit à la veille de la conclusion du grand débat parler de baisse d'impôts, de revalorisation du travail. Au fond, comment existez-vous face à un président de la République qui ne cesse de chasser sur les terres de la droite?
Guillaume Pelletier.
C'est à relier avec ce que nous disons depuis le début de cette émission. Si effectivement la droite, aux yeux de nos compatriotes, n'est qu'un mouvement qui vise à faire des effets d'annonce, à baisser les dépenses publiques et à vouloir réformer à la marge la question européenne, notre marge de manœuvre avec le président de la République est étroite. Si à l'inverse, comme nous le faisons d'ailleurs, et je salue les initiatives de Laurent Wauquiez et de François-Xavier Bellamy sur le sujet, si sur la question européenne, arrêtons-nous un instant sur la question européenne qui est centrale, on a un scrutin quand même le 26 mai. Qu'est-ce que nous proposons, nous? Trois choses radicalement différente de ce que proposent et Madame Le Pen et Monsieur Macron. Nous proposons un grand soir des compétences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français et les peuples européens ne supportent plus de voir une Europe qui, à force de prétendre s'occuper de tout, finit par s'occuper de rien. Et donc, moi, je plaide que pour la question des normes soit rapatriée dans les nations, que la question de la politique d'aménagement du territoire, 350 milliards, 2014-2020, soit rapatriée dans les nations et que nous confions à l'Europe des grands enjeux et des grands projets. La protection commerciale, la politique agricole, la recherche ou l'innovation.
C'est déjà le cas.
C'est déjà le cas de manière, vous le savez, très équilibrée entre un partage des rôles.
Enfin, la politique commerciale et la politique agricole relèvent de l'Union européenne.
En grande partie, mais pas uniquement. C'est pour ça que je vous dis, moi, je veux clarifier. Comme l'Europe a des dizaines et des dizaines de compétences, elle fait mal ce pourquoi elle a été créée. Si l'Europe s'occupait essentiellement de la protection commerciale, par exemple, nous serions beaucoup plus efficaces aujourd'hui. Deuxième grand enjeu, c'est l'idéal de protection. Mais avec des choses concrètes. Moi, je propose, avec les Républicains, un European Buy Act, c'est-à-dire la préférence européenne pour toutes les entreprises européennes, l'attribution préférentielle de 50% des marchés publics. Les Chinois, les Américains, les Russes et les Sud-Américains se protègent. L'Union européenne est incapable de se protéger. Enfin, une Europe qui fait à nouveau rêver. Il y a deux grands sujets pour ma génération. La question de la protection des données personnelles. On sait qu'avec les GAFAM américains et les BATX chinois, nous entrons dans l'ère de Big Brother. Nous n'en voulons pas. La civilisation européenne s'est fondée sur la liberté individuelle. Et donc nous devons investir des milliards d'euros pour racheter nos chercheurs européens qui sont partis au bout du monde et inventer, nous, les géants du web de demain. Et le grand projet que je porterai au sein des Républicains, c'est le plan Marshall avec l'Afrique. En lien avec Jean-Louis Borloo, en lien avec Nicolas Sarkozy qui ont initié cette idée, nous devons investir des milliards d'euros en Afrique pour s'attaquer à la cause des migrations, la misère et la détresse des pays du Sud, avec des contreparties strictes d'ailleurs. Le retour des clandestins dans les pays d'origine, la création d'administrations d'état civil et des investissements très concrets pour contourner la corruption des gouvernements. Réseau d'irrigation, réseau d'électrification, construction de réseaux d'écoles. En 10 ans, j'en parlais encore récemment avec Jean-Louis Borloo, avec lequel je travaille sur ce sujet, en 10 ans, nous pouvons faire de l'Afrique un continent des classes moyennes et donc recréer un lien extrêmement fort entre l'Europe et l'Afrique et régler la question première des migrations, qui est une question à la fois terrible pour les Européens, dans l'angoisse, terrible pour les Africains, car il est très peu probable que beaucoup des Africains qui quittent l'Afrique le fassent de gaieté de cœur.
Mais Guillaume Pelletier, vous nous avez esquissé à peu près votre programme pour effectivement ces européennes, on vous en remercie. Mais la question de l'immigration, par exemple, qui est un sujet au cœur de votre électorat à droite. La question de l'immigration, on a Emmanuel Macron qui revient sur une remise à plat de Schengen. C'était ce dont parlait Nicolas Sarkozy lors de sa dernière campagne électorale en 2012. Emmanuel Macron propose de renforcer Frontex. Donc Frontex, c'était une grande agence qui est effectivement normalement en charge pour essayer d'être là aux frontières. Je reviens sur la question de Françoise Fressoz. Ce sont typiquement des propositions qui parlent à votre électorat de droite. Donc, quel est l'espace, en fait, qu'Emmanuel Macron est en train de vous laisser ?
Sur la question de l'immigration, on a deux différences. Vous avez bien noté que la politique d'Emmanuel Macron, c'est une politique de rustine. Personne ne croit, en tout cas personne de sensé, ne croit une seule seconde
à la remise en...
que de doubler
remettre
ou tripler,
à plat Schengen, même si c'est nécessaire, pas forcément de la rustine.
Doubler ou tripler les moyens de Frontex, mais c'est nécessaire, je le dis. Réformer Schengen, mettre, et nous le proposons aussi, une double frontière européenne et nationale sur l'immigration. Moi, en tout cas, je ne serai pas de ceux qui feront croire aux peuples européens que ces simples propositions permettront d'arrêter 2,5 milliards d'Africains à l'horizon 2040-2050 qui fuient un continent en proie à la misère et à la pauvreté. Ça
Frontex,
n'est pas vrai.
Frontex, malgré tout, a renforcé effectivement ses contrôles en Italie. L'arrivée de réfugiés en Italie a baissé de 95% depuis la rentrée de janvier. Visiblement, quand même, Frontex, si on y met les moyens, ça peut marcher.
C'est pour ça que je vous dis, mais voyez bien, c'est quoi la politique ? La politique, c'est de traiter les conséquences ou de s'attaquer aux causes d'un phénomène ? Quelle est la cause des migrations ? La cause des migrations, principalement, en tout cas c'est mon analyse, c'est la misère et la détresse des pays du Sud. Bon. Il y en a d'autres, vous avez raison.
C'est la guerre, par exemple.
Et c'est la guerre,
si on songe
bien sûr.
Aux Syriens, bien, aux
exactement. Oui, c'est la guerre, c'est l'instabilité, voilà. Bon, donc disons les choses. Ça n'empêche pas, quand nous aurons traité la cause première dont je viens de parler...
Mais ça parle à votre électorat ou pas ? C'est ça, en fait, la question.
Mais en partie, oui. Mais d'ailleurs... François-Xavier Bellamy, dans les débats, porte avec beaucoup de force ses idées. D'ailleurs, on va beaucoup plus loin. Moi, je pense, par exemple, qu'on doit être intraitable avec les filières et les mafias de passeurs, ce que l'Europe ne fait pas. Il faut éradiquer ces gens et ces filières qui se font de l'argent sur le dos de la misère. Il nous faut créer des centres d'études du droit d'asile, non pas sur le continent européen, comme le propose Emmanuel Macron, mais sur la rive sud de la Méditerranée, comme nous le proposons. Mais vous voyez bien que ça... Ce sont des différences marginales.
Avec Jordan Bardella là aussi, c'est des différences marginales. Tout ce que vous venez de nous dire là, entre le Front National et vous, honnêtement, pour avoir regardé de près, je ne vois pas totalement la différence.
Il y a une différence énorme, Nathalie Saint-Cricq, vous ne pouvez pas dire le contraire. Nous sommes les seuls, c'est dans les 75 propositions, et je l'ai détaillé, je pense, avec beaucoup de fougue, parce que
vous auriez
fait
une très bonne tête de liste pour les Républicains.
Sur le plan Marshall, le plan Marshall de co-développement avec l'Afrique.
Enfin, le volet aide, oui.
C'est notre grande différence, tout de même.
Mais le volet aide,
Emmanuel Macron, je lance un appel à Emmanuel Macron en cet instant.
Jean-Luc Mélenchon aussi.
Organisons à Marseille un grand sommet avec tous les pays de l'Union européenne, avec tous les pays africains, avec les pays du Proche-Orient, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'y participent pas non plus, pour mettre sur la table. Aujourd'hui, l'Europe attribue 20 à 24 milliards d'euros chaque année à l'aide au développement en Afrique. Chacun sait que 80 à 90% de cette aide est détournée par la corruption des pays. Prenons l'exemple des Chinois et des Américains. Les Chinois ont créé 3000 entreprises chinoises en Afrique pour leur permettre non seulement d'y être présents et de développer l'Afrique. Eh bien nous, nous devons organiser ce sommet, signer le traité Euro-Méditerranée, garantir l'attribution de ces sommes, y ajouter des contreparties strictes, retour des clandestins, comme je l'ai dit, construction de projets très concrets pour développer l'Afrique et créer un grand défi à l'horizon 2025-2030. Nous pouvons faire de l'Afrique un continent prospère et chacun, européen comme africain, y sera gagnant.
Françoise Fressoz.
Tout ça, c'est très beau. À chaque campagne européenne, on entend des idées magnifiques qui ne voient jamais le jour. Donc, très concrètement, qu'est-ce que vous engagez à changer au cours de la prochaine législature du Parlement européen et avec quels alliés voulez-vous agir? Est-ce que ce sera avec les marcheurs d'Emmanuel Macron? Est-ce que ce sera plutôt avec des groupes d'extrême droite?
Guillaume Pelletier.
Bon, vous connaissez notre ligne, elle est extrêmement claire. Il n'y a pas, il n'y aura pas d'alliance avec l'extrême droite. Mais la France doit rester ce qu'elle est. Moi, quand est-ce que la France, vous, nous a fait vibrer? Pour moi, c'est la France du général de Gaulle, qui est capable...
J'ai cru que vous alliez parler de la Coupe du Monde.
Aussi, oui, oui, je vais y venir. Mais enfin, à cette époque, nous n'étions pas encore champions.
C'est vrai.
Vous en conviendrez. Le général de Gaulle, en 1964, je n'étais pas né, et j'aurais aimé vivre cet instant, malgré la pression d'une partie probablement de la bourgeoisie européenne et française, reconnaît la Chine comme pays émergent à travers les relations diplomatiques. Dominique de Villepin et Jacques Chirac, en 2003, affirment l'indépendance de la France face à l'hégémonie américaine sur la question irakienne. La France de demain doit être celle-ci. Bien sûr, c'est la France qui gagne en 1998 ou l'année dernière. Et ça compte. Mais c'est aussi la France qui retrouve sa vocation universelle de puissance d'équilibre et de contrepoids face à toutes les hégémonies du monde. C'est ça la France de demain. C'est ça l'Europe de demain. Et c'est une France, avec des parlementaires européens, qui propose des choses concrètes en trois directions, je le rappelle. J'espère, en tout cas j'y participerai, que nous ferons des propositions sur le grand soir des compétences, sur l'idéal de protection.
Le message est passé.
Et sur le plan Marshall avec l'Afrique.
Une toute petite question, Guillaume Pelletier. Est-ce que vous ne trouvez pas que, finalement, Nicolas Sarkozy vous boude un peu? En clair, ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet, c'est ce que vous ne souhaiteriez pas qu'il s'y mette, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, bah, il fasse des meetings et puis soit derrière vous, parce qu'on l'a vu au plateau des Glières.
Bon, proche d'Emmanuel Macron.
Proche. D'ailleurs, c'était sa commémoration dans le temps. C'est Emmanuel Macron qui a fait un geste vers lui. Est-ce que vous ne rêverez pas d'avoir un Nicolas Sarkozy, bah, qui aide son camp?
Est-ce qu'il est devenu macroniste, Nicolas Sarkozy?
Vous connaissez mon affection et ma proximité avec Nicolas Sarkozy.
Mais c'est pour ça qu'on pose la question.
J'ai eu l'honneur d'être son porte-parole en 2011 et en 2012. J'ai la chance de le voir régulièrement et j'ai beaucoup de considération pour lui. C'est un homme qui est si passionné de la France qu'il s'intéresse beaucoup et qu'il reçoit beaucoup. Mais il l'a dit lui-même, le temps de la politique partisane n'est plus le sien.
Mais ça, c'est l'Europe. On pourrait penser que l'Europe
est sur le plateau des Glières. Supérieure. Mais c'est lui qui a lancé cette commémoration.
C'est ce que je vous ai dit.
Et il est naturel qu'il soit aux côtés du président de la République.
Je vous parle des Européennes.
Mais très complice en même temps.
Mais
Laurent Wauquiez, il était derrière.
Mais Nicolas Sarkozy, et vous le connaissez peut-être même encore mieux que moi, vous le suivez depuis encore plus longtemps, c'est un homme empli d'affection, c'est un hyper-affectif. Il aime les gens, il aime discuter. Donc on ne va pas reprocher à Nicolas Sarkozy d'être sur le plateau des Glières. En tout cas, moi je ne serai pas de cela. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce que nous demande d'ailleurs Nicolas Sarkozy dans ses discours lorsqu'il quitta la vie politique, c'est à nous de prendre notre destin en main. Nicolas Sarkozy...
Autrement dit, il ne peut pas être un recours.
Mais il peut nous conseiller.
Mais pourrait-il être un recours? Nicolas Sarkozy.
Mais c'est pas son intention. En tout cas, moi, je ne suis plus son porte-parole et je ne suis pas lui. C'est pas à moi de parler à sa place. Moi, je sais que ce qu'il nous demande à nous, la nouvelle génération, allez-vous être capable, comme je l'ai fait, nous dit-il, au début des années 2000, de réinventer la droite française.
Là, c'est très prosaïque. Il est chez les sympathisants, les Républicains, il est encore une personnalité très forte. Donc, si vous voulez faire des voix aux européennes, vous avez plutôt intérêt à ce que Nicolas Sarkozy soutienne la liste. Donc, est-ce que vous lui dites, Nicolas Sarkozy, il faut que vous veniez soutenir la liste?
Mais Nicolas Sarkozy, il soutient sa famille politique. Il a même encouragé certains de ses proches à figurer sur cette liste. Ça ne vous a pas échappé. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que Nicolas Sarkozy soutienne la liste. Pour moi, l'enjeu n'est pas celui-là. Je comprends très bien, et je ne vais pas faire le naïf, ça m'intéresse autant que vous que de parler de Nicolas Sarkozy et d'un certain nombre de personnalités politiques. Mais ce qui fonde mon engagement politique, ce qui me fait me lever le matin, c'est qu'est-ce que nous allons être capables de proposer au peuple français. Est-ce que les Français voteront demain pour la droite française parce que tel ou tel va revenir ou parce que tel ou tel va émerger? Non.
Ah oui ?
Les Français vont voter demain pour nous lorsque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous incarnerons une alternative crédible, avec des idées crédibles, des idées concrètes. Sur l'immigration, la droite veut un plan Marshall, très bien. Sur la question de la justice sociale et fiscale, la droite veut moins d'impôts. La droite veut récompenser la valeur du travail. Sur la question des médecins qui arrivent en deuxième position dans le sondage du jour, hein, dans le journal du dimanche, vous connaissez ma position?
Oui, vous la répétez ou
mais,
pas?
Mais bien entendu.
Alors redites-la.
Je le dis avec beaucoup de clarté, arrêtons de tourner autour du pot. Gérard Larcher d'ailleurs lui-même le disait encore dans une interview récemment et il a raison. L'angoisse du désert médical est la première angoisse de là où je vis et de ce qui m'entoure, les habitants des provinces et du monde rural. Est-il acceptable que des millions de Français, à l'heure où nous parlons, n'aient pas accès à un médecin généraliste? Alors on a réformé le numerus clausus, très bien. Réforme opérationnelle dans 10 ans. On a, ici ou là, créé des incitations. Chacun voit que ça ne produit pas d'effet suffisant. Je plaide sur 40 années de carrière pour que les jeunes médecins généralistes puissent s'installer pendant 2 à 3 années.
Puissent ou doivent,
soit contraints de s'installer par un taux de conventionnement modulé, soit contraints de s'installer pendant 2 à 3 années dans un territoire sous-doté. On le fait pour les fonctionnaires. On le fait pour les médecins militaires, on le fait pour les pharmaciens, on le fait pour les chirurgiens dentistes, au nom de quoi les médecins généralistes échapperaient à cette règle, d'autant plus, je le dis pour les auditeurs, que j'admire profondément cette vocation magnifique des médecins, premièrement, mais qu'il faut que chacun sache, très clairement, que le médecin aujourd'hui bénéficie d'un double statut, le statut libéral, je m'installe où je veux, le statut de fonctionnaire, puisqu'il est rémunéré par la sécurité sociale, c'est-à-dire par l'argent des contribuables. Eh bien, au nom de ce droit dont il bénéficie, que je ne souhaite pas remettre en cause. En face des droits, il doit y avoir des devoirs. Il me semble juste, au nom du serment d'Hippocrate, de s'installer là où les Français ont le plus besoin de vous. Et comme le réclament les Français à plus de 80%, comme nous sommes de plus en plus de parlementaires à le réclamer, nous devons initier ce taux de conventionnement modulé.
Est-ce que vous avez convaincu Laurent Wauquiez?
Je vais continuer à essayer de convaincre un certain nombre de responsables. Non mais, vous savez, la vie politique, c'est pas l'unanimité. D'abord, ça ne marche pas. Et on ne convainc pas une seconde de conviction nouvelle. Moi, c'est une conviction, vous le savez, que je porte depuis très longtemps. Et que je continuerai à porter. Je suis député de Loire-et-Cher. J'ai été maire d'une commune rurale, vous l'avez rappelé. J'ai créé moi-même un pôle de santé dans mon territoire pour venir en aide à mes concitoyens. Je le dis et je le répète, j'espère que notre famille politique entendra les immenses attentes du peuple français sur cette question-là aussi.
Le premier vice-président du parti Les Républicains, Guillaume Pelletier, est l'invité de Questions Politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou, Questions Politiques.
Et une question, Guillaume Pelletier, comment s'opposer? On voit la difficulté d'incarner, de porter sa voix dans le paysage politique actuel quand on est de droite et dans l'opposition. Et on a vu ces derniers jours quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé il y a encore quelques mois. La droite, les Républicains, alliés avec la gauche et notamment les socialistes, pour refuser la privatisation d'aéroports de Paris. Nathalie Saint-Cricq.
Un certain nombre de députés. Enfin, Bruno Le Maire a parlé d'une espèce d'attelage de circonstances, dont on dit de la conjuration des imbéciles. Comment expliquer que des gens de droite, de gauche soient d'accord, sachant
250
que
députés.
Sous la gauche, l'aéroport de Toulouse, on avait accepté, et que sous la droite, et notamment dans le programme de François Fillon, eh ben, on était totalement favorable à ces privatisations. Alors, est-ce qu'il y a un réveil soudain de toute la classe politique, ou c'est juste pour faire contre Macron ?
Guillaume Pelletier.
Alors, il y a plein de choses, parce que ce sujet est absolument passionnant et on pourrait y passer des heures. Je ne le ferai pas. J'essaierai d'être synthétique.
S'il
Mais
vous
avez posé les vrais problèmes de cet enjeu. J'avais d'abord cru comprendre, ou suis-je resté un jeune homme naïf, que ce qui fonde le nouveau monde d'Emmanuel Macron, c'était la capacité à transcender la droite et la gauche. Et donc je suis particulièrement étonné de voir certains de ses ministres, venus d'horizons différents, faire semblant de s'étouffer et de s'estomaquer de cette conviction très forte qui nous anime, nous, au Parlement, que de transcender les intérêts particuliers pour défendre une vision d'intérêt général.
Non, mais ça n'est jamais arrivé de mémoire, en tout cas d'observateur politique, de voir la droite de gouvernement et le Parti socialiste
Gilles Carrez avec Alexis Mélenchon.
Je vais y revenir. Gilles Carrez, président, ancien président de la Commission des finances, dont on ne peut pas dire qu'il incarne l'antilibéralisme, Gilles,
justement.
Hein, et qui est avec nous dans cette initiative. Moi, il y a un an, dans le journal du dimanche, j'ai décidé de lancer cet appel à refuser la privatisation d'Aéroports de Paris pour des raisons très simples, rappelons-les quand même. C'est qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, tous les aéroports...
Bon, les deux modèles existent, on ne va pas refaire l'histoire d'Aéroports de Paris.
C'est pas une lubie soudaine de quelques parlementaires pour faire les malins et s'opposer à Emmanuel Macron, ça n'a même rien à voir.
Il m'arrive
de voter des textes
deux arguments.
De soutien au président de la République. Là, il s'agit d'un enjeu d'intérêt général. D'autant plus que l'exemple de l'aéroport de Toulouse fut un échec, que la droite, à tort, il y a près de 12 ans, 13 ans maintenant, a privatisé les autoroutes, dont on voit les conséquences aujourd'hui, hausse de 10%.
Mais c'était dans le programme de François Fillon aussi à la présidentielle. Hein. Il y a
hausse de 20% du prix des péages en 10 années, 15 milliards de dividendes distribués aux actionnaires en 10 ans, sans aucun contrôle. Ce sont des choses qui me choquent.
Non, mais l'aéroport de Paris aujourd'hui est le 37e aéroport au niveau mondial. Oui. Il y a peut-être quand même des améliorations à faire. Donc la question, c'est est-ce que l'État français a les moyens d'investir pour redonner un petit peu à ce fleuron français, à l'aéroport de Paris, une capacité attractive ?
Oui.
La question, elle est surtout là.
Je crois.
L'État français récupère des dividendes, mais les réinvestit très peu, en fait, dans cet aéroport de Paris.
Donc qu'est-ce qu'on fait ? Je considère qu'en restant majoritaire, de manière limitée, et en s'associant avec un certain nombre d'initiatives, privée, nous pouvions répondre à cet enjeu. Et chacun a bien compris, parce que telle est la réalité, comme le fit nos gouvernements sur les autoroutes il y a 10 ans, que dans l'urgence d'un déficit budgétaire considérable, Emmanuel Macron a été chercher 10 milliards d'euros qu'il n'avait pas. Et que dans l'urgence, nous avons vendu des bijoux de famille.
Les 10 milliards vont quand même servir à un fonds d'investissement pour des investissements d'avenir ?
Oui, mais...
Vous agitez des chiffons rouges,
non,
en fait.
Non, je le dis avec beaucoup de clarté. Vous savez, quand des parlementaires de toute sensibilité s'inquiète. Quand le Sénat s'y oppose majoritairement, et là aussi le Sénat n'a jamais fait preuve d'une vision très socialiste du monde.
Hein. Et ils ne font pas de politique.
Non, moi j'allais dire, voilà, c'est quand même un tribunal politique aujourd'hui, le Sénat.
Donc, je le répète, nous assumons parfaitement de placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers, qu'Emmanuel Macron, j'avais cru comprendre qu'il souhaitait nous montrer la voie d'être capable de rassembler des sensibilités différentes quand l'intérêt du pays était en cause, et que les cris de vierge effarouchés des membres du gouvernement sonnent extrêmement faux. Parce que la réalité, c'est que les Français, comme la représentation nationale, ne souhaitent pas qu'on vende dans l'urgence des entités
stratégiques. La représentation nationale, pour le moment, vous n'êtes pas majoritaire. Mais j'aimerais juste comprendre, est-ce que vous pourriez le refaire ? Est-ce que c'est un dossier sur lequel vous vous êtes allié avec la gauche et les socialistes ? Est-ce que vous pourriez vous retrouver à l'avenir sur d'autres sujets ? Avec la gauche, est-ce que vous en parlez avec Olivier Faure et d'autres députés socialistes de combats communs que vous pourriez mener ?
Mais qu'est-ce que la droite, et je m'en réjouis depuis le 2017, enfin ? La droite, à l'Assemblée nationale, sous la houlette de Christian Jacob, c'était la droite du pragmatisme. Avons-nous jamais voté de textes proposés par le gouvernement ? Si. Nous votons régulièrement des textes à la condition, vous en êtes témoin, que cela apporte... à l'intérêt général. Bah nous votons.
Enfin, vous avez jamais vu vous allier avec les socialistes, Guillaume Pelletier.
Mais, par exemple, sur la question des médecins, vous croyez qu'on va pouvoir faire bouger la société française
en restant
uniquement entre nous ?
La France insoumise est d'accord avec vous d'ailleurs pour faire une espèce de corps de médecins qui soit obligé d'aller s'installer en région.
Comment ?
La France insoumise est d'accord avec vous.
Mais Olivier Faure aussi a défendu cette idée et je m'en réjouis. Mais qu'est-ce que C'est quoi cette politique où parce qu'on est dans une famille politique, on aurait raison contre tout le monde?
Ah bah c'est ça, vous nous avez habitué Guillaume Pelletier.
C'est pas ma vision des choses. Moi, ma vision des choses, c'est je suis de droite et fier de l'être parce que je considère, oui, que la gauche sur les enjeux essentiels est totalement à côté de la plaque. Ça ne m'interdit pas de m'associer ou avec des socialistes, ou avec des représentants d'En Marche, de penser même dans l'hémicycle régional, puisque je suis conseiller régional, de voter parfois avec les Verts, avec des élus du Front National, avec des élus centristes, avec des élus En Marche, à la condition que sur un sujet précis, nous ayons la conviction que cela apportera un plus et un mieux au peuple français.
Donc, qu'est-ce que vous redoutez à travers la privatisation d'Aéroports de Paris? C'est quoi la menace qui pèse sur le pays à travers cette privatisation?
La menace, c'est exactement, même si vous avez raison, il y a des exemples contradictoires, mais il y a aussi des exemples inquiétants. Prenons l'exemple de l'aéroport de Toulouse, vendu à un groupe chinois sous Emmanuel Macron et François Hollande. Les Chinois, chacun le sait, aujourd'hui ont pillé la trésorerie, souhaitent désormais revendre l'aéroport et n'ont rien investi de ce qu'ils avaient promis. Je trouve que les garanties de la privatisation d'Aéroports de Paris ne sont pas suffisantes. Que va-t-on faire sur les investissements futurs? Je vous rappelle, c'est quand même des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois directs et indirects. C'est un poids non négligeable dans le PIB national. C'est l'horizon de quelques années, 100 millions de passagers. Et entre Bourget, Orly et Roissy, c'est un hub international absolument conséquent et significatif. Les aéroports, c'est tout de même un enjeu stratégique. Vous savez très bien que la question du contrôle des migrations, du contrôle des frontières, ça en fait partie. Alors on me dit, oui, mais on ne délègue pas pour le moment le contrôle des frontières. C'est vrai, ça n'est pas dans le texte. Mais on nous avait dit, sur la question des autoroutes, qu'il y aurait un contrôle.
C'est vous qui avez décidé de la privatisation des autoroutes.
Ali Badou, rassurez-moi. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Et vous pensez exactement pareil de ce qu'on fait vos aînés à France Inter ou à Canal Plus il y a 10 ou 15 ans. Non,
ma famille.
Vous retrouvez d'ailleurs mes déclarations, puisqu'à l'époque, et François Bayrou, et Philippe de Villiers, et quelques autres étaient opposés à cette privatisation. Donc, moi, je vais vous dire quelle est ma conviction. Je suis favorable à des privatisations, les télécoms, l'électricité, quand il y a une véritable concurrence. Là, nous sommes en train de privatiser un monopole. Privatiser un monopole, ça veut dire offrir une rente de situation à des entités qui ne prendront plus aucun risque. J'ai quand même le droit de défendre cette conviction.
Bien
et
sûr.
Nous avons le droit d'être rejoints par des parlementaires de toute sensibilité.
C'est bien la main des socialistes. On va
c'est bien la
page
preuve que la droite française est en train de redevenir une droite capable d'incarner des idées nouvelles et de fédérer autour d'elle des gens venus d'ailleurs. Vous savez, la politique, c'est pas simplement de convaincre son camp, c'est un jour de faire 50% plus une voix, et pour faire 50% plus une voix, il faut être capable d'aller convaincre des gens venus d'ailleurs.
Alors, et il faudra peut-être voir un jour Laurent Wauquiez et Olivier Faure faire tribune commune pour défendre des projets qu'ils auraient ensemble, des projets d'intérêt national. On attend vraiment de voir ça. Karine Bécart,
une dernière petite question sur ça, parce que c'est intéressant.
Parce qu'il reste peu de temps.
Je reprends l'idée d'Ali Badou, un jour où on verrait Wauquiez et Olivier Faure, Laurent Wauquiez et Olivier Faure effectivement faire tribune commune. Dans ce que vous avez dit, c'est voilà, à partir du moment où le projet peut être intéressant, on peut s'allier à des Verts, à des socialistes, etc. Vous voulez dire finalement que cette 5e République, elle est vraiment à bout de souffle, qu'il faut changer de culture, qu'il faut aller vers des majorités de coalition? C'est pas du tout la culture française, ce dont
bien
vous parlez.
Bien sûr. Non, je
la 5e République, elle est à bout de souffle.
Je crois au scrutin majoritaire, et à ce titre, je récuse les proposition institutionnelle du président de la République, vous savez, d'introduire trop de proportionnel, parce que je crois que notre pays
c'est
mérite aujourd'hui et commande de la stabilité.
C'est quoi trop? 20% c'est trop ou c'est ça va?
Que ça existe 15, à la marge. Je vous réponds vraiment avec beaucoup de franchise. C'est-à-dire que moi, je crois assez peu à la nécessité de la proportionnelle, parce que je crois que la priorité, c'est pas la représentativité, c'est la stabilité.
D'accord.
Ça ne nous interdit en rien d'avoir des majorités de projets, évidemment, au-delà d'une ligne directrice. Mais je crois que l'enjeu n'est pas là. Si vous me parlez de réforme institutionnelle, je vais vous en proposer une sur laquelle je travaille depuis longtemps, qu'on entend beaucoup d'ailleurs dans le cadre du grand débat. C'est l'impression aujourd'hui de la part des Français que le pouvoir n'a plus le pouvoir, que le pouvoir politique n'est en rien efficace, qu'il annonce, qu'il propose, qu'il promet, mais qu'il n'agit pas concrètement au service de nos concitoyens pour une raison simple, c'est que la France, depuis probablement une quarantaine d'années, est dirigée par une caste. Jean-Louis Borloo les appelle les fermiers généraux de Bercy, les hauts fonctionnaires, les bureaucrates, les technocrates. Une minorité élitiste française qui se croit tout permis et qui, malgré les changements politiques, les convictions politiques, les volontés politiques...
Vous parlez des énarques, pour le dire rapidement.
Entre autres,
et
pas
de
que,
la botte.
Entre autres. Alors, j'ai du respect pour les hauts fonctionnaires à la condition qu'ils ne soient pas l'exécutif, mais qu'ils soient l'exécutant. Et donc, je propose...
Vous l'avez dit à Laurent Wauquiez ?
Et je propose... Non, mais comme je vous dis, j'ai du respect. C'est pas parce que on a été à l'ENA. Moi, je l'ai pas fait. Donc, moi, je suis assez à l'aise.
Mais votre président l'a fait.
Mais beaucoup l'ont
fait. Mais la réforme des grands corps, c'est prévu par Emmanuel Macron.
Permettez-moi, juste parce que ce qui est important, c'est bien d'avoir un constat partagé. C'est mieux d'avoir une solution. Quelle est la solution que je préconise dès 2022 ? C'est l'application en France du spoil system à la française.
Il l'avait promis, Emmanuel Macron.
Il l'avait promis, il ne l'a pas mis en œuvre.
Et donc, spoil system,
traduction très concrète, oui. Le président de la République sera élu probablement dans nos institutions le dimanche 8 mai 2022. Je souhaite qu'il ne prenne ses fonctions qu'à la mi-juin, pour que pendant un mois, il puisse recevoir tous les directeurs d'administration, les hauts fonctionnaires, les préfets, et pouvoir révoquer celles et ceux qui ne signeraient pas une lettre d'engagement d'appliquer la politique du président de la République. C'est ce que font les Américains. Vous savez pourquoi aux États-Unis on est élu au mois de novembre et on ne prend ses fonctions qu'au mois de janvier? C'est pour laisser au nouveau président le temps de recevoir toute l'administration et de bien voir que les directeurs d'administration vont appliquer la politique pour laquelle vous avez été élu. Ça, c'est une réforme concrète, utile et qu'attendent nos compatriotes pour que le pouvoir politique, le suffrage universel, la légitimité du peuple soient enfin réhabilités.
Une petite question concrète et sonnante et trébuchante. Les tarifs de l'électricité doivent augmenter. Qu'est-ce que doit faire Emmanuel Macron? On laisse cette hausse
dire non
et faire quoi? Baisser les taxes sur...
Oui, moi je pense, vous savez, je salue d'ailleurs son initiative, vous savez, sur le traité Europe États-Unis.
Ouais.
Emmanuel Macron a eu raison de dire non. Vous savez, un homme politique, on l'attend pour dire oui, mais on l'attend aussi parfois pour dire non. Et dire non, entre autres, à cette obsession de la rentabilité et du profit d'un certain nombre de grandes entités, comme sur la question de l'électricité. Le grand enjeu, et j'en conclue par là, pour Emmanuel Macron cette semaine, sur les questions que vous évoquez, c'est d'annoncer une baisse drastique des dépenses publiques et la lutte contre tous les gaspillages, en luttant contre les fraudes fiscales et sociales.
Tout le monde est d'accord là-dessus.
Oui, mais de le dire et de le faire. Il y a des propositions concrètes, il faut lutter contre les fraudes fiscales et
sociales, l'électricité.
Deuxièmement, il faut baisser les charges qui pèsent sur les salaires. Trois, il faut enfin augmenter le pouvoir d'achat et baisser les impôts. Donc arrêter avec toutes les augmentations.
Et les TVA à 0% sur les 100 produits de première nécessité, comme le proposait ici même Xavier Bertrand, c'est une bonne piste ?
Il a raison. Je crois qu'il faudra, en échange de cette baisse drastique des dépenses publiques, envoyer des signaux très clairs et démontrer, sans doute pas sur 1000, mais sur 100, 150 ou 200 produits de première nécessité, que la classe politique française a enfin entendu le cri de colère de celles et ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois. C'est inacceptable qu'en France, des hommes et des femmes qui bossent ou qui ont bossé ne puissent pas vivre dignement d'une vie de travail ou du fruit de leur travail. C'est tout le grand enjeu qui vient à partir de l'été prochain, que la droite française redevienne le grand mouvement de la valeur travail, de l'effort et du mérite.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à vous faire les relais de cette colère ? Après des mois d'une crise politique inédite, est-ce que vous avez déjà fait un pré-bilan ? Essayez de comprendre.
Vous avez raison. Oui, oui. Alors, je pense qu'on a, depuis le début du quinquennat, sur la question des territoires, France des territoires avec Damien Abad et Christian Jacob, la question du pouvoir d'achat avec Laurent Wauquiez, nous avons initié les grandes thématiques qui allaient nourrir le grand débat. Mais que, parce que nous n'étions pas suffisamment en ordre de bataille, suffisamment unis, et chacun doit y prendre sa part, moi y compris, nous n'avons pas suffisamment incarné cette alternative.
Mais parce que vous avez perdu la cible dans les milieux populaires.
Colère
quand
des gilets
vous
jaunes.
Les...
Vous avez noté que quand j'ai proposé la hausse générale des salaires, à l'exception de Valérie Pécresse et de quelques parlementaires, je ne fus pas encore soutenu. Donc je continue à être déterminé et convaincu que la droite française de demain, et je convaincrai l'ensemble des responsables politiques, c'est ma conviction, doit redevenir le mouvement de la récompense de la valeur travail, comme je l'ai initié il y a quelques mois et quelques années, avec d'autres.
Voilà, comme le disait Nicolas Sarkozy.
Comment ?
Comme le disait Nicolas Sarkozy.
Comme le disait Nicolas Sarkozy avec beaucoup de justesse.
À propos de Nicolas Sarkozy, justement, puisque l'émission se termine et qu'on est aujourd'hui, le marathon de Paris vient de se terminer. On apprend dans Le Parisien que tous les mercredis à 6h45, à l'aube, un groupe de députés Les Républicains, la bande des joggeurs, parcourir dans les rues de Paris. Vous en faites partie ?
Non, je les connais très bien, ils ont raison. Moi, je cours chez moi en Sologne. J'aime bien les routes calmes et forestières de ma province, plutôt que...
Mais il y a eu Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez, sont tous des joggeurs. Faut vous y mettre.
Ah, la politique. Ah ben, je suis incapable de faire un marathon, soyons modestes. Et mes 10 km, j'aime bien les faire chaque semaine.
Merci Guillaume Pelletier et bon dimanche. Un mot encore pour vous dire que Question Politique entre en campagne pour les européennes. Et dès dimanche prochain, nous vous donnons rendez-vous pour une série d'émissions spéciales avec les 12 têtes de liste aux européennes qui se succéderont dans le studio de Question Politique. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique. Merci à toutes les trois. Bon dimanche.
Bon dimanche.